Père Nicolas Sautreau, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Alors, je vous propose de continuer sur le sujet des illusions, même si vos propres retours à vous me signalent bien que globalement, c'est quand même un petit peu négatif. Mais en même temps que vous me dites que ce qu'exprime le père Faber est décapant et négatif, vous affirmez que ça fait du bien. Au final, après quelques jours de méditation, pour faire un peu son examen de conscience, l'opération Faber n'est pas aussi inutile ou bien aussi désagréable qu'on pourrait le penser. Alors nous étions sur les causes des illusions, les sources des illusions, avec finalement une séparation assez simple entre les causes intérieures, celles qui viennent uniquement de nous-mêmes, lorsque nous créons nos propres illusions, et les causes extérieures de nos illusions dans la vie spirituelle. Et là, nous sommes passés avec la troisième source du côté des causes extérieures, même si il y a un peu un mélange entre ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Alors je progresse dans le texte du père Faber. Les autres nous trompent, d'accord, mais nous sommes leurs complices par la manière dont nous parlons de nous-mêmes. La grande question, c'est surtout au sujet des éloges et des louanges, ce n'est pas tant ce que font les autres que comment nous pouvons provoquer les éloges. Nous pouvons provoquer les félicitations et les congratulations, les provoquer parce que nous nous complaisons dedans et nous faisons sentir à l'extérieur que nous nous complaisons dans ces paroles qui nous mettent en valeur. Donc, nous sommes complices de ces mauvais éloges, de ces paroles qui pourraient être belles et bonnes, mais qui finalement tournent à notre désavantage. Le père Faber précise qu'il s'agit, là dans son esprit, des conversations spirituelles, des confidences spirituelles, lorsque nous parlons de tout ce qui concerne Dieu et la recherche de Dieu. Et là, nous avons à choisir, explique-t-il avec, comme souvent, un brin d'humour, ou bien garder le secret total sur notre vie intérieure, ou en tout cas soigner le secret, ou bien dévoiler toute notre vie intérieure. Alors, il y a de l'humour parce que, évidemment, on ne voit pas qui aurait en même temps l'indécence et on pourrait dire la bêtise de vouloir raconter toute sa vie intérieure, de vouloir claironner ce qui se passe entre le Seigneur et lui. Donc on voit bien que, en fait, il n'y a pas d'alternative. Il va nous inviter, encore une fois, au silence, à un silence plein de paix et en même temps plein d'intelligence. Garder ce que nous pourrions imaginer être un juste milieu entre le secret et tout dire, finalement, serait une forme de mensonge. Parce que nous faisons un choix dans ce que nous disons, et nous faisons un choix entre ce que nous disons et ce que nous taisons. Et c'est là où les illusions vont surgir et nous allons les entretenir. Donc le plus sage, c'est de ne pas parler de soi. Alors là aussi, c'est un petit peu un refrain chez le père Faber. Appuyer sur son expérience spirituelle, ne pas parler de soi, on ne le regrette finalement pratiquement jamais. Trop parler de soi, on le regrette. Eh bien, ce défaut, parler de soi, pourrait sembler un petit défaut, mais il n'y a pas beaucoup de pratiques dans la vie spirituelle qui soit plus difficile que d'éviter de parler de soi. Si vraiment, si nous cherchons à bannir toute illusion sur nous-mêmes et à être en vérité, nous pouvons sur une journée constater que c'est de l'ordre de l'impossible de passer une journée entière sans parler de nous-mêmes. Alors peut-être que là, ça dépasse les confidences spirituelles. On pourrait imaginer passer toute une journée sans avoir à raconter quelque chose de notre vie intérieure, mais toute une journée sans parler de soi, d'après le père Faber, c'est de l'ordre de l'impossible. Si nous avons jamais essayé de faire cela, de ne pas parler de soi pendant un temps un peu important, plus que 10 minutes bien sûr, nous avons dû constater qu'il y a des choses dans la vie spirituelle qui semblent faciles au premier coup d'œil, mais qui, en réalité, sont impraticables. Voilà son affirmation. Malgré cela, si nous nous décidons à parler de nous-mêmes, alors faisons-le de manière complète. Et les exemples qui suivent sont, comme d'habitude, teintés d'un très bel humour anglais. Si nous disons aux autres comment notre cœur brûle d'amour pour Dieu, il est bon qu'ils sachent aussi que ce même cœur n'est pas insensible à la chaleur d'un bon dîner gastronomique. Si nous faisons connaître nos pratiques de piété, pourquoi ne pas parler aussi de notre goût pour un certain luxe ou pour une certaine recherche dans les vêtements? Si nous faisons le compte-rendu de l'argent et du temps que nous dépensons à visiter et à secourir les pauvres, pourquoi ne pas mentionner aussi notre manque de cœur et d'attention envers ceux qui sont à notre service, par exemple au restaurant? Comment nous n'hésitons pas à manifester de la mauvaise humeur et de la susceptibilité lorsqu'il se trouve qu'il y a des personnes qui sont à notre service par leur métier? Si nous publions partout notre bon côté, il faut aussi montrer le mauvais côté. Autrement, nous ne sommes pas dans la vérité. Et nous montrons aux autres une grandeur d'âme qui n'est pas réelle. Nous sommes alors la cause que les autres deviennent les complices de nos illusions. Nous sommes la cause qu'ils deviennent les complices de notre recherche de louange, de respect et d'admiration. Donc si on compte bien, double péché. Nous-mêmes, nous sommes en plein amour propre et nous invitons les autres à être dans une attitude qui est de l'ordre un peu de la séduction, en tout cas de la flatterie, pour qu'ils recherchent leurs propres intérêts lorsque nous pouvons leur être utiles en quoi que ce soit. Donc si nous parlons de notre merveilleuse vie spirituelle, surtout n'oublions pas de bien manifester plusieurs de nos péchés, y compris les péchés les plus tristes, comme cette description que nous donne le père Faber, d'une attitude inacceptable envers ceux qui sont à notre service exceptionnellement et par leur métier. Il y a une autre cause extérieure, et là c'est un peu étonnant, je vous avais de cette manière promis que j'essaierai de rechercher les parties du père Faber, de l'œuvre du père Faber qui seraient les plus extraordinaires, les plus exceptionnelles. Eh bien, il y a celle-ci où il nous parle de la famille, de notre famille. Alors, l'expérience qu'il a de la famille, c'est d'abord évidemment sa propre famille, qui était une famille plutôt heureuse, mais peut-être plus fort, son expérience de la famille spirituelle, de la famille d'élection et de la famille religieuse. Avec tout ce que nous savons déjà des nombreuses qualités humaines du père Faber, on peut imaginer qu'avec lui, la vie de communauté était plutôt agréable et facile. Et parce que lui était un homme agréable et facile, un homme facile d'abord et avec lequel on pouvait ouvrir son cœur, parce qu'il était délicat, parce qu'il était attentionné aux autres, sa vie de communauté, dans son expérience personnelle, était une vie heureuse, était une vie où on est bien en famille. Alors, il part un peu du principe d'une famille heureuse, d'une famille réussie, harmonieuse et unie, et il ne va pas hésiter à nous parler des dangers de cette famille. Les dangers d'une famille réussie dans le domaine des illusions spirituelles. Il parle de ses affections dans la famille qui est une manière de nous laisser tromper par les autres. Alors il s'explique. on est si souvent parfait aux yeux de sa propre famille. Il faut être bien mauvais pour ne pas avoir les honneurs de la canonisation domestique. Alors, encore une fois, peut-être qu'il est un petit peu gêné dans son expression par sa propre expérience. Quelqu'un qui avait autant de qualités, oui, il y avait ce risque d'une canonisation par sa famille spirituelle. Peut-être que c'est quand même pas le plus grand risque qui nous attend au tournant, chacun d'entre nous. Mais il y a cette vérité très intéressante qu'aux yeux de notre famille, nous avons au moins les qualités de notre famille. Ces fameuses qualités familiales qu'on se plaît souvent à se raconter les uns les autres, dans notre famille on est plutôt comme ceci, plutôt comme cela, et lorsque nous appartenons bien à notre famille par notre tempérament, par nos habitudes, par nos goûts, eh bien il y a une appréciation, il y a une bienveillance, un a priori favorable sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Et là le père Faber nous dit « attention, c'est dangereux ». C'est dangereux pour les illusions dans la vie spirituelle. Nous sommes parfois comme dans une atmosphère où il y a plein d'encens qui est répandu devant nous, et notre pauvre nature humaine, qui est tellement sensible à la vanité, trouve là une des principales douceurs de la vie de famille. En famille, on peut être très apprécié, on peut être très admiré. Et pourtant, c'est un des premiers principes de la vie spirituelle que chacun devrait être à ses propres yeux, uniquement ce qu'il est aux yeux de Dieu et rien de plus. Si seulement nous pouvions ne vivre que sous le regard de Dieu et nous regarder uniquement à travers ce regard de Dieu sur chacun d'entre nous. Un regard à la fois immensément rempli d'amour, mais aussi de vérité et de justice. Mais il y a bien peu de personnes qui ne sont à leurs propres yeux que ce qu'ils sont aux yeux de leur famille aimante et admirative. Et il est à craindre que la plupart du temps, le point de vue de Dieu et le point de vue de notre famille sont très loin d'être identiques. Nous pouvons ainsi tomber en famille dans une sorte d'optimisme béat. L'exemple que nous apporte le Père Faber, et il était beaucoup plus percutant, très certainement, dans l'Angleterre du XIXe siècle, ce sont les inscriptions dans les cimetières. Des inscriptions funéraires sur les monuments qui nous divertissent, qui peuvent nous faire rire même par l'étrangeté de leurs histoires, comment elles nous racontent une forme de légende au sujet de ceux qui nous ont quittés avec d'immenses qualités, avec une histoire personnelle qui ferait déclencher de l'envie chez les plus grands héros nationaux. Mais pour la famille proche, il y a cette sorte de canonisation dont nous sommes aussi les témoins parfois pendant les cérémonies de funérailles, où comme l'on dit, il suffit d'être mort pour devenir parfait, pour n'avoir plus aucun défaut. Eh bien, ce qui peut se passer après notre mort peut être anticipé dans la famille parce que nous sommes très très appréciés, parce que nous sommes la fierté de notre famille. Et le père Faber, évidemment, déplace cela dans le domaine de la religion, dans le domaine de la spiritualité et dans le domaine des efforts pour arriver à la perfection chrétienne, à la perfection de la sainteté. Danger. Mais si nous sortons de ce cercle de famille, de ce nid douillet si chaudement rembourré, de son atmosphère de louange exagérée, de son atmosphère d'embrassade aveugle, alors nous risquons de sentir la présence de Dieu un peu comme une bise glaciale. La présence de Dieu ou la prédication de celui qui essaye de nous appeler à la conversion, de celui qui nous appelle à pratiquer l'Évangile. La réalité réelle n'a pas de pires ennemis que ces séductions des louanges qui peuvent venir de notre famille de chair ou notre famille spirituelle. Alors il ne faut pas nous étonner de ce que les saints ont traité avec rigueur cette illusion et ont traité parfois de façon presque scandaleuse leur famille charnelle. C'est vrai que dans l'histoire de la sainteté chrétienne, il y a à la fois de merveilleux exemples de sainteté en famille, plusieurs saints rassemblés dans une même famille avec les mêmes parents, avec les mêmes ancêtres, mais il y a aussi assez souvent ces saints qui quittent leur famille, qui s'éloignent de leur famille d'une façon irréversible et qui restent avec une grande distance critique par rapport à leur famille. Un peu plus loin dans son texte, le père Faber va nous dévoiler l'amour qu'il a pour saint François de Sales et pour la doctrine spirituelle qui vient de saint François de Sales. Il est toujours très curieux de voir comment saint François de Sales est pratiquement un contre-exemple de cet éloignement de sa famille. Comment, dans son histoire de sainteté, saint François de Sales est très étonnant parce qu'il en était arrivé à confesser sa maman, ses frères et sœurs, à être assez régulièrement en famille et à être le directeur spirituel de sa famille. Habituellement, c'est totalement déconseillé. Si vous n'êtes pas saint François de Sales, vraiment, la tradition spirituelle déconseille de chercher à être le père spirituel des membres de sa famille. Chez saint François de Sales, il y a une sorte de miracle de cet humanisme spirituel qui le conduit à arriver à avoir cette relation très apaisée et en même temps très à distance avec sa propre famille. Nous pouvons le prier, le cher saint François de Sales, de nous aider pour chacun d'entre nous à avoir cette juste distance non seulement avec les membres de notre famille ou de notre famille religieuse ou spirituelle, mais cette juste distance par rapport aux appréciations, aux félicitations, aux éloges que nous pouvons recevoir des membres de notre famille. L'autre cause extérieure des illusions, ce sont les lectures. Alors, les années précédentes, nous avons déjà parlé de l'importance des lectures, du choix des lectures surtout, le choix des lectures dans la vie spirituelle. Comment il y a des lectures qui vont beaucoup apporter, comment il y a des lectures qui sont vraiment incontournables, bien sûr avant tout la méditation la plus fréquente possible de l'Évangile, rien n'est au-dessus de l'Évangile, mais comment il y a aussi des lectures qui sont des écueils, qui sont des dangers dans la vie spirituelle. Eh bien c'est plutôt ce point de vue-là, puisque nous restons dans le négatif, nous restons dans les conseils de prudence, les conseils qui concernent les choses dangereuses dans la vie spirituelle, eh bien c'est ce domaine-là que va explorer le père Faber. Les livres spirituels sont des causes extérieures, et les livres spirituels peuvent contribuer à nous sortir de la réalité, donc à nous lancer dans l'illusion. Il est impossible de mettre en place un ensemble plus grand d'illusions autour de soi que lorsqu'on a la mauvaise habitude de choisir des livres spirituels qui sont au-dessus de sa condition actuelle, ou qui sont totalement étrangers à nos besoins actuels. Donc le mauvais choix, tout simplement le mauvais choix dans les livres spirituels ou dans les histoires des saints, et le manque de discussion après avec le confesseur sur ces lectures, qui va conduire à nous mettre dans l'illusion. Voilà une mise en garde un petit peu terrible. Pour tout lecteur qui lit sans cesse des livres de théologie mystique, la prière la plus commune, la plus banale, la prière la plus simple, risque de lui paraître extraordinaire. Parce que il va penser qu'il y a quelques liens, qu'il y a quelques similitudes entre sa prière et ce qu'il est en train de lire. Celui qui est fraîchement converti, surtout, va prendre des grâces tout à fait habituelles, tout à fait communes, tout à fait générales dans la vie spirituelle, pour des faveurs exceptionnelles. Et cela parce qu'il est en dialogue uniquement avec des livres, qu'il n'est pas en dialogue avec des personnes en chair et en os qui vont pouvoir lui répondre. Parce qu'en fait, avec un livre, il n'y a pas un vrai dialogue. Le livre, nous l'interprétons, le livre, nous pouvons le capturer pour nous-mêmes, le livre, nous pouvons rêver avec, l'utiliser comme un roman, comme un instrument de rêve, et nous laisser sortir de la réalité. Et pas seulement des livres qui seraient tout récents, qui n'auraient pas été éprouvés par les années, pas seulement des livres qui seraient écrits par des inconnus, des personnes dont personne ne sait si elles ont fait leurs preuves et dans la vie spirituelle et dans la vie en général, mais même de grands auteurs. Il y a ce risque de tellement mal choisir ces lectures spirituelles que nous allons utiliser des grands auteurs contre leur volonté, de grands auteurs spirituels, et nous allons simplement leur demander des aliments pour nos rêves religieux, pour nos rêves spirituels. De toutes les réalités, la théologie mystique, donc tous ces écrits sur la vie mystique, est une de celles où il est le plus facile de prendre du plaqué or pour de l'or massif. Le livre de théologie spirituelle nous parle d'or massif, de cet or purifié par le feu dont l'Ancien Testament nous fait souvent la description. Et nous allons imaginer que là où nous en sommes, qui ressemble plutôt à de la ferraille ou du plomb, même s'il peut y avoir un petit revêtement, un petit plaquage en or, là où nous en sommes, c'est aussi de l'or massif. Terrible illusion, parce que nous croyons être bien avancés, alors que nous avons simplement lu des descriptions de ce qu'est une vie spirituelle développée, de ce qu'est une vie spirituelle profondément enracinée et transformée par la grâce du Seigneur. À force de lecture sur l'amour de Dieu, sur l'amour pur et désintéressé, nous pouvons bien vite finir par croire que nous avons dans le cœur un amour semblable. Les pensées héroïques peuvent être contagieuses, et nous pouvons en être bientôt boursouflés comme par une éruption de boutons. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas la contagion des pensées héroïques qui fait que nous sommes des héros spirituels en pratique. Tout au plus, cela pourrait donner une sorte de vernis sentimental à notre foi, tant qu'il n'est pas question de se mettre à agir pour de bon, de se mettre à se sacrifier pour de bon au service de Dieu ou au service de nos frères. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer, sans faire du délire, que le père Faber nous explique le genre de livre qu'il n'a surtout pas voulu écrire. Que quand il s'est mis à écrire ses livres spirituels, j'ai dû vous raconter qu'il pouvait passer 16 heures par jour pour l'écriture d'un livre. Donc, pratiquement, il n'y a pas de temps pour manger, juste le temps pour la messe, pour dire son office, pour faire son temps d'oraison et d'adoration. Quand il écrivait ses livres, il se disait « Je ne veux surtout pas qu'on puisse utiliser mes livres spirituels pour entrer dans l'illusion, pour se prendre pour des grands, grands mystiques alors qu'il n'en est rien. » On peut dire qu'il a plutôt réussi, parce qu'une fois qu'on a refermé, on n'a pas tellement envie de penser qu'on est les plus parfaits du monde et qu'on est déjà arrivé au sommet de la spiritualité. Les livres, donc, l'étape d'après, c'est ce qu'il appelle la direction spirituelle. Il y a plein de mots pour parler de ça. Aujourd'hui, peut-être, on dira plus accompagnement spirituel, on dira aussi père spirituel. Le mot consacré, et en français, peut-être qu'il a une saveur qui est moins sympathique que dans d'autres langues. Le directeur, c'est le guide, tout simplement, qui se met en retrait, puisqu'il n'a qu'un seul guide, qui est l'Esprit-Saint, et que nous avons notre conscience morale qui, éclairée par l'Esprit-Saint, nous permet aussi de nous guider. Mais dans l'histoire de la spiritualité catholique, que lui a découvert après sa conversion, la présence du directeur spirituel est quelque chose d'important. Eh bien là, il ne va pas hésiter, encore une fois, à taper dans la masse en disant qu'il y a une autre manière de se tromper et de se laisser tromper par d'autres, c'est de chercher un guide spirituel là où nous ne serons pas contredits. Donc, comme dans le choix des lectures, on peut lamentablement et dangereusement se tromper, on peut aussi faire un très mauvais choix pour son guide spirituel. Comment des cœurs droits peuvent-ils en arriver à faire ce choix et à le faire consciemment? Ce n'est pas toujours complètement inconscient. C'est un mystère. C'est vraiment un grand mystère, dit-il, mais un mystère qui se rencontre à chaque pas dans la vie spirituelle et qui offre des exemples très frappants. Alors le père Faber commence par dire une grande vérité. L'Église n'oblige personne à avoir un directeur spirituel. Il n'y a pas d'obligation. Elle ne nous impose rien dans tout ce domaine en dehors de la confession sacramentelle. Une des choses qui a énormément frappé les convertis des premiers temps de l'Église, c'est le changement que le Seigneur Jésus avait fait subir aux préceptes dans le domaine du culte, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la vie publique de relation avec Dieu. Là où dans la religion juive telle qu'elle existait du temps du Seigneur Jésus, comme le Christ l'a pratiqué avec une immense spiritualité, avec son être de fils de Dieu, dans cette religion juive, il y avait une multitude de prescriptions au sujet du culte. Et le Seigneur Jésus, finalement, va dire « Ce que je vous commande de précepte, c'est la prière une fois par jour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est la participation à la messe le dimanche et les jours de grande fête, et puis la participation au sacrement essentiel à votre vie. » Alors, le sacrement le plus fréquent étant celui de la pénitence et de la réconciliation. Et en dehors de cela, il n'y a pas de précepte. Tout le reste est merveilleusement libre. Et c'était vraiment très frappant. Et dans cette liberté, il y a le choix ou non d'un guide spirituel. Par contre, quand il s'agit de la confession sacramentelle, peut-être vous vous souvenez que je suis en train de vous parler confiné à Ars. Donc, auprès du Saint-Curé, où ce mystère de la confession sacramentelle, du sacrement du pardon, ne cesse de nous être rappelé, de nous être, d'une certaine manière, magnifié par la vie du curé d'Ars, bien, en dehors de cette confession sacramentelle, il n'y a pas d'obligation stricte. La confession est quelque chose qui appartient totalement à la foi chrétienne et à la pratique chrétienne et à la prière chrétienne, au culte chrétien, mais les autres éléments sont dans le monde de la liberté des enfants de Dieu. Si nous nous mettons sous la conduite d'un directeur spirituel, c'est un acte qui vient purement de nous-mêmes. Alors s'il y a des canonistes qui m'écoutent, ils vont me rétorquer que lorsqu'on est au séminaire ou lorsqu'on est au noviciat, il y a une obligation d'avoir un père spirituel. Mais ce sont des cas exceptionnels. Le père Faber n'écrit pas pour des séminaristes ou pour des aspirants à la vie religieuse, il écrit pour les chrétiens, pour ceux de son époque et de toutes les époques. Et ce qu'il écrit là, comme pratiquement tout ce qu'il écrit, reste totalement valable aujourd'hui. Donc, si nous nous mettons sous la conduite d'un directeur, c'est un acte qui vient purement de nous-mêmes, et nous le faisons dans le but d'y trouver un profit spirituel. C'est là où le bât blesse. Est-ce que vraiment la pureté d'intention est entière ? Est-ce que ce que nous cherchons, c'est vraiment le progrès spirituel ? Ou bien, est-ce que nous allons chercher un interlocuteur qui ne va pas nous contredire, qui va plutôt être dans l'admiration que dans le décapage et la contradiction, comme l'est avec nous le père Faber depuis plusieurs semaines. Qui croirait après cela qu'on puisse aller de gaieté de cœur s'enfermer dans un système de fausseté et se perdre dans les bourbiers de l'illusion, malgré les hauts cris qu'on va pouvoir manifester et qui vont dire « Non, non, j'ai choisi, parmi tous ceux qui étaient possibles, le directeur spirituel qui allait être le plus sincère, le plus fort, le plus direct avec moi. » Eh bien, c'est ce qui arrive pourtant de choisir avec comme critère de joie de ne pas être contrarié, de ne pas être contredit. On cherche alors une direction spirituelle à 50% pour se tromper soi-même et à 50% pour ne pas être troublé dans ses rêves. D'après cette idée qui est très très mauvaise, on va se mettre en quête du père spirituel idéal. On va fixer son choix sur celui qui aura le jugement le moins indépendant ou le moins vigoureux. Et alors, on lui remet sa direction intérieure entre les mains. Il y a une belle dose d'ironie, mais c'est encore matière à examen de conscience. Voilà, sur le choix. Alors, si vous voulez transposer et parler simplement du confesseur, mon cher papa, selon la chair, me racontait que au petit séminaire, celui qui était choisi par beaucoup de collégiens, c'était le prêtre le plus sourd de l'équipe. Voilà, on allait se confesser, on choisissait comme confesseur celui dont on avait repéré qu'il était presque totalement sourd. Donc il est sûr que là, côté contradiction, ou être troublé dans ses rêves, ou dans ses ambitions personnelles, le risque était très très limité. Donc, ce qu'on demande à ce moment-là, à ce père spirituel, c'est de rester bien tranquille, de pas trop s'avancer dans ses opinions, de s'en tenir uniquement aux discours plus ou moins vagues, de se contenter surtout d'une direction purement passive. Pas d'initiative chez lui, pas de questions. Il doit donner une direction fondamentale, de grandes idées bien vagues. On le charge d'être un peu une sentinelle, mais surtout de ne pas chercher à nous éveiller ou à nous réveiller. On l'autorise à nous retenir dans le domaine de la piété, dans le domaine de la mortification et de la pénitence, mais surtout pas de nous stimuler, surtout pas de nous demander de faire davantage. Et pourtant, alors encore une des grandes affirmations à l'emporte-pièce, parmi les personnes qui s'occupent de guide spirituel, de guidage spirituel, quelle personne pourrait dire qu'elle a eu le bonheur de trouver une sur mille qui a besoin d'être retenue dans le domaine de la mortification réelle, dans le domaine de l'obéissance, du don de soi, dans le domaine de l'humilité, de l'effacement, dans le domaine de l'imitation du Seigneur Jésus, véritablement pauvre et humble. Encore une fois, c'est un petit peu irritant de s'entendre dire cela, mais si d'entrée de jeu, nous interdisons aux confesseurs ou aux guides spirituels de nous stimuler, si nous disons que ce n'est pas son rôle, comment pouvons-nous espérer de grands fruits dans l'accompagnement spirituel ? Si l'Église nous faisait une obligation d'avoir un directeur spirituel, on comprendrait un peu mieux que notre nature blessée choisisse habilement un vénérable grand-père qui n'impose rien, qui ne réfléchit pas trop, qui n'a pas d'idée personnelle. Mais comme tout cela est affaire de liberté, de libre choix, il est quand même étonnant qu'on se donne tant de peine pour chercher un père spirituel en sachant que les résultats vont être tellement pauvres. Mais bon, supposons que le directeur spirituel est choisi, comment allons-nous nous conduire à son égard ? Est-ce que au moins nous lui donnons beau jeu ? Est-ce que au moins nous nous laissons vivre un petit peu dans son rôle de père spirituel ? Est-ce que nous lui adressons des questions parfaitement droites et simples, auxquelles il puisse répondre par oui ou par non ? Est-ce que dans ce que nous lui confions, il n'y a vraiment rien de modifié, d'arranger un peu, d'apprêter, d'exagérer, rien qui vise à faire de l'effet, rien qui vise à susciter un peu d'admiration, ou même simplement un peu d'étonnement. Est-ce que nous n'avons pas de toute façon tout décidé avant de le consulter ? Est-ce que nous ne l'interrogeons pas pour obtenir une déclaration qui nous plaise, non pas pour connaître son jugement personnel, un jugement qui serait totalement calme et désintéressé, mais pour obtenir une approbation. Même si elle n'est donnée que du bout des lèvres, cela nous suffit, une approbation. Une approbation y compris sur nos rêves spirituels. Du point de vue de Dieu, tout cela n'est finalement qu'une œuvre de folie. L'idée générale du père Faber, là, c'est de dire « Mais mieux vaut vous abstenir, mes amis, puisque ce n'est pas obligatoire, plutôt que de vous lancer dans une telle folie, mais dites-vous que vous verrez cela plus tard. Pourquoi chercher un autre lieu, une autre cause d'illusion ?» À propos des escroqueries dans les affaires du monde, on entend parler de comptes truqués. Moi, je ne suis pas tellement au courant de cette cuisine financière, mais j'imagine qu'il y a vraiment quelque chose de semblable dans ce qu'on appelle les comptes de conscience. Peut-être suis-je trop mordant. Si je le suis, je peux vous assurer que c'est avec beaucoup d'affection et d'intention bonne. Je veux vous faire du bien et je crains de ne pas pouvoir vous atteindre dans ces domaines-là. C'est comme s'il y avait entre ma main qui écrit et vos âmes quelques-unes de ces toiles d'araignées volantes qui cèdent tout en se mettant dans les yeux sans qu'on puisse s'en débarrasser et qui aveuglent. Dans mon impatience, je craindrais, en devenant encore plus sérieux sur ces questions-là, de prendre un ton un peu violent. Alors supportez mes petits coups de patte et voyez si au milieu de tout cela, je ne vous dis pas des choses qui vous rendent service et qui vous auraient peut-être moins déplu si elles n'avaient pas été aussi importantes. Eh bien, c'est sur cette sorte de confidence du père Faber que je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.
Au revoir.